Au cœur de l'histoire, c'est juste après les infos. Vous écoutez Europe 1, il est 15h. Et tout de suite, un point sur l'actualité avec Maude Tambellini. Bonjour Maude.
Bonjour Virginie et bonjour à tous. De gros bouchons à attendre demain sur les routes de Lyon et Marseille. En cause, une mobilisation massive de chauffeurs de taxi. Ils protestent contre la convention en cours de négociation avec l'assurance maladie pour le transport de malades assis. La préfecture du Rhône demande notamment de reporter ces déplacements si possible. Mardi, c'est à Paris que les chauffeurs de taxi devraient ensuite manifester. Comptez désormais 30 euros pour une consultation chez le médecin généraliste. Comme chaque début de mois, des changements sont à noter. La baisse du bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique entrera en vigueur demain. Pour les moins aisés, ce bonus qui était initialement prévu à 7 000 euros passe à 4 000. Et pour les 20% les plus aisés des Français, on tombera à 2 000 euros de bonus. Le Premier ministre a 100% de chances d'être censuré, mais aussi 100% de chances de ne pas l'être s'il écoute nos propositions. Déclaration ce dimanche de Thomas Ménager, député RN du Centre Val-de-Loire. Le parti a fixé plusieurs lignes rouges à revoir avant le vote du budget de la Sécurité sociale demain à l'Assemblée. S'il n'y a pas de changement, Marine Le Pen pourrait soutenir la motion de censure que devrait déposer le NFP en cas de procédure du 49-3. Autre scénario, si Michel Barnier décidait de ne pas recourir au 49-3 et que le texte était rejeté demain, il repartirait alors pour une nouvelle navette parlementaire. En attendant de connaître son sort, le gouvernement reste à la recherche d'économies. Michel Barnier a demandé au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau d'étudier la protection policière d'anciens ministres ou responsables politiques pour la diminuer. Une trentaine d'entre eux pourraient cesser de bénéficier d'une voiture et d'agents de sécurité au quotidien. On a appris en fin de matinée la mort de l'acteur français Nils Arestrup à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. Totalisant plus de 50 ans de carrière, il a obtenu 3 fois le César du meilleur acteur dans un second rôle pour les films de Battre mon cœur s'est arrêté, Un prophète et Quai d'Orsay. En Essonne, un homme de 36 ans placé en garde à vue a été retrouvé pendu dans sa cellule. Arrêté pour des violences conjugales sur sa compagne, il se trouvait déjà en sursis probatoire. Son décès a été constaté hier après-midi au commissariat de Montgeron. Une enquête a été ouverte. À l'étranger, le président syrien Bachar el-Assad promet, je cite, d'utiliser la force pour éradiquer le terrorisme. La ville d'Alep, seconde ville du pays, est tombée aux mains d'une coalition de groupes rebelles menés par des islamistes. Le régime de Bachar el-Assad dispose du soutien de l'Iran, mais aussi de la Russie, qui aurait mené des frappes ce dimanche sur l'université d'Alep. Une ONG sur place fait état de 5 morts. Et puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky a redit ce dimanche qu'intégrer l'OTAN était nécessaire à la survie de son pays. Nous avons besoin de plus d'armes et de garanties de sécurité avant d'accepter d'entamer des négociations avec la Russie, a-t-il aussi ajouté.
Europe 1.
Europe 1, 15h03, c'est à vous Virginie Giraud, au cœur de l'histoire.
Merci Maude Tambellini, on vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'actualité.
Europe 1, 15h, 16h,
au cœur de l'histoire. Virginie Giraud.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque week-end sur Europe 1 pour plonger ensemble au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vous propose une grande visite dans le Versailles du jeune Louis XV. Mon premier récit sera consacré au régent, l'homme qui a assuré l'intérim du pouvoir pendant l'enfance du successeur de Louis XIV. Mon second récit sera le miroir du premier, puisque je vous parlerai de l'enfance difficile de Louis XV. Enfin, j'aurai le plaisir de recevoir l'historien Stanis Pérez, qui viendra nous parler des accouchements des reines de France sous l'Ancien Régime, et vous verrez qu'on va tordre le cou à quelques idées reçues. Mais tout de suite, je vous emmène au XVIIIe siècle, juste après la mort de Louis XIV.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit.
En ce 2 septembre 1715, les personnages les plus puissants du royaume ont un rendez-vous historique. Les princes du sang et les bâtards royaux légitimés, les ducs et les pères du royaume, tous ont rendez-vous au Parlement de Paris, la plus haute cour de justice du royaume. En présence des magistrats, une séance solennelle s'y tient. Dans cette assemblée se trouvent des personnages rivaux qui se détestent au plus haut point. Imaginez tous ces hommes qui se jaugent et se toisent. S'ils sont réunis, c'est que le royaume traverse un moment délicat. Le vieux Louis XIV, que l'on aurait presque pu croire immortel, vient de rendre l'âme. et son successeur, son arrière-petit-fils, âgé de seulement 5 ans, ne peut pas encore exercer seul ses fonctions. Néanmoins, pour assurer la bonne marche du gouvernement, Louis XIV a rédigé un testament qui va bientôt être dévoilé aux grands du royaume. Les oreilles se dressent. Un homme habillé de noir prend la parole. Il s'agit du premier prince du sang, Philippe d'Orléans. Outre sa haute naissance, il possède un atout non négligeable, son éloquence. Devant cette assemblée d'aristocrates et de juristes, il rappelle la promesse que Louis XIV lui a faite sur son lit de mort. Avant de partir, le vieux souverain lui a promis la régence du royaume. Cela étant dit, l'heure est venue d'ouvrir le fameux testament et de le lire à haute voix. Hélas, Philippe d'Orléans est nommé non pas régent de plein droit, mais président d'un conseil de régence dans lequel siégeront ses adversaires, les fils légitimés de Louis XIV, à commencer par le duc du Maine. Les décisions devront être prises à la majorité de ce conseil. Autant dire que Philippe d'Orléans se trouve grandement entravé pour gouverner à sa guise. Il est une sorte de régent fantoche qui devra sans cesse chercher des compromis pour gouverner. Lui, le premier prince du sang qui avait rêvé de ce moment, se retrouve à partager le pouvoir et avec des bâtards qui plus est. Depuis sa tombe, Louis XIV lui adresse une ultime humiliation. Mais le duc d'Orléans n'est nullement surpris, sa relation avec le défunt roi a longtemps été orageuse. Malgré son orgueil égratigné, le duc reprend la parole pour rappeler l'engagement du défunt roi, la régence pleine et entière, avec le droit de décider seul de la composition du conseil de régence. Son argumentation fait mouche. Il se fait acclamer régent du royaume. C'est alors que le duc du Maine, l'un des enfants légitimés de Louis XIV, contre-attaque. Il défend les dispositions du testament de son père. Il faut dire qu'il y figurait en bonne place. Le déjeuner interrompt la séance. C'est finalement au cours de ces agapes que le duc d'Orléans parvient à emporter une fois de plus toute l'adhésion des parlementaires en leur restituant leur pouvoir confisqué par Louis XIV. Ceux-ci avaient été réduits à l'enregistrement des édits royaux sans pouvoir y changer une virgule. Ils retrouvent désormais leur droit de remontrance. Le testament de Louis XIV est cassé et Philippe d'Orléans devient régent du royaume. En fin de journée, la séance est levée. Dans la rue, sur le pont Neuf, la foule crie
« Vive le roi ! Vive monsieur le régent !»
Ce à quoi Philippe répond en faisant pleuvoir des écus. En réalité, Philippe d'Orléans vient d'accomplir le coup d'État le plus feutré de l'histoire. Sans aucun soldat, il s'est arrogé l'essentiel des pouvoirs du royaume. Neveu de Louis XIV, Philippe est né le 2 août 1674 dans une illustre famille, celle des Orléans. Sa mère, la princesse Palatine, est l'un des personnages les plus hauts en couleur de la cour. Je lui ai consacré un épisode que je vous invite à écouter. Quant à son père, Monsieur, le jeune frère de Louis XIV, lui aussi prénommé Philippe, il a la réputation d'un prince frivole, mondain et précieux, toujours entouré d'une nuée de favoris. Pour l'instant, Philippe se voit octroyer le titre de duc de Chartres. Chose rare à l'époque, il est élevé par sa mère, la princesse Palatine, qui s'investit personnellement dans l'éducation de ses enfants. Le petit duc de Chartres est gay, joueur. Parmi ses petits camarades de jeu se trouve le duc de Saint-Simon, qui écrira plus tard ses mémoires, un texte littéraire qui nous en apprend beaucoup aujourd'hui sur Versailles. Philippe reçoit une éducation érudite de la part de son précepteur, l'abbé Dubois, un abbé dont on réentendra parler par la suite. Le jeune garçon est intelligent et les efforts de son précepteur sont récompensés. À la cour, Philippe brille comme un petit génie. Plus vif que tous les autres, il a le verbe facile. Même le grand écrivain Boileau n'y résiste pas.
« Je n'admire pas seulement Monsieur de Chartres, »
écrit-il.
« Mais je l'aime. J'en suis fou. »
Mais notre duc ne ferait-il pas un peu d'ombre aux enfants du roi ? En grandissant, les traits de Philippe restent fins et son beau visage est mis en valeur par une belle chevelure bouclée. Je ne vous le cacherai pas, sa beauté fait des ravages auprès de la gente féminine. Comme son oncle Louis XIV, il devient un séducteur invétéré qui enchaîne les conquêtes auprès des comédiennes et des filles d'opéra. Il faut canaliser les élans de cet incorrigible galant.
Europe 1,
15h, 16h, au cœur de l'histoire. Virginie Giraud.
L'occasion se présente avec la guerre. Mars devait supplanter Vénus dans le cœur du duc. À 16 ans, Philippe accompagne Louis XIV sur le front à Mons, dans l'actuelle Belgique. Là, il arpente sous le feu ennemi les tranchées creusées autour de la ville assiégée. Après 3 semaines de siège, Mons capitule et ouvre ses portes. Pour le jeune Philippe, cette première expérience est enivrante. De retour à la cour, il commence à étudier le métier des armes. Il se montre joyeux et gaillard à l'idée de retourner dès que possible au combat. Beau, bien né, brillant, notre prince est incontestablement l'un des meilleurs partis du royaume. Aussi, le roi Louis XIV veut lui imposer un mariage avec sa propre fille, Mademoiselle de Blois, une fille adultère qu'il a eue avec son ancienne maîtresse, Madame de Montespan. Mais ce mariage serait une mésalliance aux yeux des Orléans. Le jeune Philippe méprise la bâtardise au plus haut point. Quant à la personnalité de la jeune fille, n'en parlons pas. Il s'agit là d'une fille pleine de morgue, comme sa mère. Elle a beau être née hors mariage, elle tire une fierté arrogante d'être la fille de Louis XIV. Elle passe de longues heures à s'admirer dans le miroir. À ce narcissisme, il faut ajouter sa paresse. Elle ne cesse de se plaindre de ses vapeurs. Non, Philippe ne voudrait d'elle pour rien au monde. Mais comment dire non au roi ? Le duc de Chartres songe à sa carrière. S'il refuse le mariage, jamais le roi ne lui accordera de commandement aux armées. Alors c'est finalement de mauvaise grâce que Philippe consent à cette union. Le mariage honteux est célébré en hiver. Heureusement, le printemps arrive, et avec les beaux jours, ce sont les offensives militaires qui reprennent. Philippe trépigne. Sur le champ de bataille, on ne peut plus l'arrêter. Il charge, sabre au clair, avec tant de bravoure que l'on tente de freiner ses ardeurs. Une balle traverse même son juste au corps. Mais elle ne l'atteint pas. Alors Philippe poursuit sa chevauchée. Le voilà maintenant touché au bras. À peine la plaie poncée, il repart de plus belle. Cette fougue inquiète le maréchal de Luxembourg qui dirige les opérations. Il lui ordonne de se replier dans la réserve. Mais le courage de Philippe impressionne. Bientôt, on ne parle que de ça. Et la comparaison est cruelle avec les enfants de Louis XIV, infiniment plus timorés sous le feu ennemi. À la cour, la Palatine jubile, fière de son fils. « Régnez sur les cœurs, lui écrit-elle. C'est le plus grand et le plus beau règne du monde. » Et en effet, à chaque bataille, le duc de Chartres enchaîne les succès. Pour l'heure, le roi est satisfait de ce jeune chef de guerre qui l'aide à répandre sa gloire. Mais cela ne va pas durer. Entre 2 batailles, notre duc fréquente les cabarets et les jolies filles. Il faut dire qu'il ne digère toujours pas le mariage qu'on lui a imposé. Sa femme, la fille du roi, il la désigne comme « Madame Lucifer ». Non seulement Philippe lui est infidèle, mais en plus, il s'affiche ouvertement avec une danseuse de l'Académie royale. À voir son gendre humilier sa propre fille, Louis XIV commence à perdre patience. Cela fait longtemps qu'il prend ombrage de ce jeune homme trop brillant, trop volage, qui ne cesse d'humilier ses enfants. Alors le roi boude son neveu et Philippe tombe peu à peu en disgrâce. La guerre se poursuivra sans lui. Désœuvré, Philippe se jette dans les arts. Il aime passionnément la musique italienne, il est intarissable sur le sujet et compose lui-même des morceaux. Parfois, il monte sur scène pour chanter. Il s'adonne également au théâtre et joue devant Louis XIV les précieuses ridicules de Molière. Il n'hésite pas à se contorsionner pour déclencher l'hilarité de la salle. Il a l'esprit de la farce. Et ce n'est pas tout. Ce prince artiste se transforme aussi en peintre. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec Philippe qui s'adonne aussi à la chimie. Un art encore largement relié à l'alchimie, mais que fabrique notre duc de Chartres dans son laboratoire ? De l'or, tel un alchimiste ? Ou bien des poisons pour se débarrasser d'un rival gênant ? Vous l'aurez compris, Philippe est un esprit libre qui dérange. Un iconoclaste passionné d'ésotérisme qui croit au diable, mais se tient à distance de Dieu, à une époque où l'athéisme est bien rare. À la messe, on le surprend à lire Rabelais. De plus en plus, cet homme est accusé d'être un débauché, un libertin qui réalise d'étranges opérations dans son cabinet, d'autant que les morts se multiplient dans la famille royale. À la toute fin du règne de Louis XIV, sa descendance en ligne directe se réduit au seul futur Louis XV. Cette série de morts est suspecte. À qui profitent ces disparitions? Les regards se tournent vers notre Philippe devenu duc d'Orléans depuis la mort de son père. Car si le jeune dauphin devait mourir, c'est lui qui deviendrait l'héritier du trône. Et comme par hasard, cet homme traîne de longs moments au milieu des fumigations et des alambics comme s'il confectionnait des poisons. La rumeur grandit et fait de lui un pestiféré. Le fidèle Saint-Simon est l'un des seuls à ne pas se détourner de lui. Vous comprenez désormais pourquoi Louis XIV était si réticent à l'idée de confier les clés du royaume à Philippe d'Orléans pendant la minorité de Louis XV. Il avait beau être le premier prince du sang, le duc était trop sulfureux. C'est pourquoi, dans ses dernières volontés, Louis XIV encadre considérablement son pouvoir en l'obligeant à gouverner avec un conseil de régence dont il choisit les membres. Mais on l'a vu en ouverture de ce récit, Philippe a fait casser le testament du roi. Il obtient la pleine régence et tous les pouvoirs afférents.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Je vais vous raconter comment le régent a fait prendre à la France un tournant libéral. Oui, oui, à tout de suite.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Joyeux anniversaire, l'association Laura de Fugain.
Ah bon ? C'est l'anniversaire de l'association ?
Bah oui, ils fêtent leurs 20 ans.
Soutenez la recherche contre les leucémies. Envoyez KDO par SMS, suivi de 5, 10 ou 20 au 92 101.
On a besoin de vous tous.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, super votre appli Mon Leclerc, je ne manque plus aucune promo.
Ah, tant mieux.
Mais vous auriez pas une appli pour intégrer ma carte de fidélité ?
Bien sûr, l'appli Mon Leclerc.
Mais celle-là, je l'ai déjà.
Justement, on récapitule. Avec l'appli Mon Leclerc, consultez toutes nos promos, activez vos bons de réduction, retrouvez votre carte de fidélité et conservez vos tickets de caisse. Elle fait tout pour défendre votre pouvoir d'achat.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Disponible sur iOS et Android. Plus de détails sur www.e.leclerc, rubrique application mobile.
BMW.
100% électrique. 100% plaisir de conduire. Venez essayer la BMW électrique qui vous ressemble. Jusqu'au 31 décembre 2024, la BMW iX1 M Sport est à 490 euros par mois.
Offre pour BMW iX1 20 M Sport. LLD 39 mois 30 000 km. Premier loyer 490 euros après déduction bonus écologique de 4 000 euros. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Europe 1.
Au cœur de l'histoire. Virginie Giraud.
Cet après-midi, dans Au cœur de l'histoire sur Europe 1, on se plonge dans les jeunes années du règne de Louis XV. Poursuivons d'abord notre récit sur le régent pour découvrir si, oui ou non, il a été l'ennemi du jeune souverain. Après toutes ces années d'humiliation, Philippe d'Orléans renaît. À la tête du royaume, il fait souffler un vent nouveau. La régence succède à l'absolutisme Louis XIVien. C'est une rupture sur tous les plans. À ses côtés, il fait venir une nouvelle équipe, dont son ancien précepteur, l'abbé Dubois, comme principal ministre. D'abord, le régent quitte Versailles pour s'installer à Paris, au Palais Royal. Sur l'impulsion de Philippe d'Orléans, la nouvelle capitale redevient le centre du pouvoir bouillonnant d'activités et d'idées nouvelles. La population augmente, Paris s'agrandit et les aristocrates y construisent leurs hôtels particuliers. D'ailleurs, l'un d'eux, le comte d'Evreux, construit le sien sur un terrain marécageux rue du Faubourg Saint-Honoré. Un bâtiment promis à un illustre avenir, puisqu'il prendra le nom de Palais de l'Élysée. Mais revenons à notre régent qui réorganise aussi la vie politique. Il veut également rompre avec le gouvernement d'un seul homme. Alors il établit une nouvelle organisation des pouvoirs. Les décisions sont désormais collégiales, prises par des conseils dont il réserve les places à la noblesse. L'aristocratie, qui s'était sentie lésée sous le règne de Louis XIV, tient là sa revanche. Ensuite, on rompt avec le rigorisme religieux qui prévalait. C'est une vague de libéralisme où l'on ouvre les cachots. Philippe fait libérer les jansénistes, des chrétiens dissidents qui étaient jusque-là persécutés. Dans les affaires étrangères, la paix succède à toutes ces décennies de guerre. La France se rapproche même de son ennemi héréditaire, l'Angleterre. Cette paix permet de licencier de nombreux soldats, car la priorité absolue est budgétaire. Le régent se trouve à la tête d'un royaume totalement ruiné. Faire des économies ne suffit pas. Ce qu'il faudrait, c'est un miracle. C'est alors qu'un Écossais, John Law, vient trouver le régent pour lui proposer une solution. Un système complexe qui repose sur la planche à billets.
C'est-à-dire qu'en multipliant la quantité de papier-monnaie, on pourrait, selon lui, rembourser la dette. John Law crée une banque qui émet des actions. En clair, vous confiez votre or à cette banque et, en échange, vous en devenez actionnaire et recevez du papier-monnaie. La valeur de ces actions est adossée aux richesses tirées de l'empire colonial. Bonne nouvelle, sous l'effet de la spéculation, le cours des actions s'envole dans un premier temps. Le système va fonctionner jusqu'à ce que la panique s'empare des acquéreurs d'actions qui voudront tous récupérer leur or. Tout s'effondre alors. Le système était, il faut le dire, assez expérimental. Mais là où le régent est entré dans la légende, c'est par son mode de vie tout à fait extravagant. Imaginez, il succède à Louis XIV qui régnait à la fin de sa vie sur une cour très dévote. Il n'y avait plus de fêtes ni de plaisirs. Tout avait été remplacé par des messes et d'austères cérémonies. Philippe d'Orléans, tout au contraire, mène une vie licencieuse et raffole des fêtes galantes. Dans son palais royal, c'est la débauche qui règne. Ces fêtes privées sont désignées sous le nom de petits soupers et la luxure fait office de péché mignon pour le dessert. Des chansons restées dans notre répertoire témoignent de ses mœurs. « Il court le furet hein » serait en réalité une contrepétrie qui désignerait l'abbé Dubois qui participe à cette débauche. Ce style de vie scandalise la société dévote, alors il alimente les rumeurs les plus folles. On accuse même le régent d'entretenir une liaison avec sa propre fille. Ce qui est certain, c'est que les excès finissent par fatiguer le régent. Ses nuits, vous l'aurez compris, sont très occupées, mais ses journées également, car Philippe d'Orléans, passionné de politique, s'implique dans les affaires de l'État. Son médecin le conjure de ralentir le rythme, mais le régent ne l'écoute pas et il poursuit son existence folle jusqu'à son dernier soupir, à 49 ans, aux côtés de sa maîtresse en 1723. Il vient juste d'achever sa mission, puisque le roi Louis XV, âgé de 13 ans, est maintenant majeur. Là s'achève la régence. Louis XV est encore jeune, mais son grand-oncle Philippe d'Orléans aura véritablement joué le rôle de père protecteur auprès de cet orphelin. Il raffolait de cet enfant vif et joueur. Peut-être se reconnaissait-il un peu en lui. Il s'est assuré que l'enfant reçoive la meilleure éducation. Il a en particulier insisté pour qu'il soit instruit en sciences exactes, la cartographie, l'astronomie ou la biologie. Ses connaissances devaient lui ouvrir l'esprit pour gouverner en roi éclairé, comme on dira plus tard. Mais ce n'est pas tout. Le régent l'a aussi préparé au métier de roi en l'associant au gouvernement à partir de ses 10 ans. Et dire qu'on avait accusé Philippe d'Orléans d'être un empoisonneur. Certains s'étaient inquiétés. Ne cherchera-t-il pas à éliminer le roi pour prendre sa place? Tout au contraire. Philippe est mort après avoir laissé derrière lui un jeune roi ouvert que l'on surnommera bientôt le bien-aimé. De la disgrâce jusqu'au sommet, Philippe d'Orléans aura été porté par des vents contraires. Ce prince brillant a marqué une respiration en rupture avec l'absolutisme. Mais en redonnant du pouvoir aux parlementaires et à la noblesse, il a préparé les rudes conflits à venir entre la monarchie et l'aristocratie. Dans un instant, on change de point de vue. Après le régent, concentrons-nous sur l'enfance de Louis XV. Vous découvrirez quels drames ont émaillé sa jeunesse et l'ont rendu si mélancolique. A tout de suite sur Europe 1.
Bonjour, c'est Pascal Pro. Je suis heureux de vous retrouver sur Europe 1.
11h, 13h, Pascal Pro et vous.
Écoutez Europe 1, c'est être libre.
Bonjour Pascal, je suis ravie de vous entendre.
Je ne comprends pas que les autorités tolèrent des appels à la violence.
Il n'y a pas une année sans qu'il se passe une grève.
Mais c'est honteux, c'est révoltant. On est la France qui bosse, donc on n'a même pas le temps de faire la révolution.
Europe 1, la radio libre.
Pascal Pro et vous.
Je vous donne rendez-vous demain de 11h à 13h sur Europe 1. Je compte sur vous.
Les ventes flash de la Black Friday Week Amazon sont enfin là. Économisez jusqu'à 35% sur de nombreux produits. De la high-tech à la maison, en passant par les jouets, la beauté et bien plus encore. Profitez des ventes flash de la Black Friday Week Amazon. Jusqu'au 2 décembre. Des ventes flash qui vont vraiment vous enchanter.
Pour la 19e édition de son Grand Noël, Vaux le Vicomte vous emmène en voyage dans l'univers féerique et enchanteur des contes. Une expérience magique pour toute la famille, avec décors somptueux et feux de cheminée, patinoires et projections monumentales sur la façade du château. Le Grand Noël, plus d'infos sur volvicomte.com, avec Europe 1.
Pour voir quelque chose de grand, vous pouvez aller au Grand Canyon, qui fait la même taille depuis des millions d'années. Mais pour voir quelque chose qui a grandi, il y a le Mini Countryman. Et lui aussi est vraiment grand. Mini Countryman électrique. Plus grand, toujours mini. Jusqu'au 31 décembre 2024, profitez du Mini Countryman électrique Fevord S dès 395€ par mois. LLD 39 mois, 30 000 km. Premier loyer de 395€ après bonus écologique de 4 000€ déduit. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur mini.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
15h, 16h.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Virginie Giraud.
Bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre. Aujourd'hui, je vous emmène au XVIIIe siècle. Après l'histoire du régent, je voulais vous raconter celle de la jeunesse de Louis XV. Vous verrez que son enfance émaillée de drames permet de mieux comprendre cet homme mélancolique et, il faut le dire, parfois capricieux. Nous sommes à Versailles le 8 mars 1712. Il règne dans l'aile des princes où se trouve le logement des enfants royaux une effervescence peu commune. L'inquiétude est à son comble. 9 médecins se bousculent dans la chambre du petit duc de Bretagne âgé de 5 ans. Et pour cause, ce garçonnet est le petit dauphin. Tous les espoirs de succession de Louis XIV âgé de 73 ans reposent sur cet enfant. Le roi Soleil a déjà perdu en moins d'un an son fils et son petit-fils. Dieu ne peut pas aussi lui prendre cet enfant-là. Le duc de Bretagne souffre de la rougeole, comme ses parents décédés un mois auparavant. Dans l'espoir de sortir les mauvaises humeurs de son petit corps, les médecins le saignent et lui donnent des émétiques pour le faire vomir. Sa gouvernante, Madame de Ventadour, observe les médecins, horrifiés. Elle voit bien qu'ils font du mal à son petit prince, mais elle ne peut pas s'interposer entre eux et le dauphin. Le duc d'Anjou, le petit frère du dauphin, souffre des mêmes maux. La fièvre le fait grelotter et il gémit de douleur. Les médecins zélés veulent lui administrer le même traitement qu'au duc de Bretagne, mais cette fois, Madame de Ventadour intervient. Elle ne peut pas lutter contre les médecins s'agissant du dauphin, mais elle ne les laissera pas toucher un seul cheveu du cadet. Les femmes de la maison des enfants font toute barrage au docteur vêtu de noir qui concentre à nouveau leurs efforts sur le dauphin. Madame de Ventadour veille à garder son petit duc d'Anjou au chaud tant qu'il aura de la fièvre. En plus, il fait ses dents et ça n'arrange rien s'il a lui aussi la rougeole. Dans l'espoir de le soulager, elle lui fait donner des gâteaux imbibés de vin. Les bras maternants de Madame de Ventadour ont peut-être sauvé le petit duc d'Anjou, car les médecins ont eu de piètres résultats avec le dauphin. Dans la nuit du 8 au 9 mars, ceux-ci constatent son décès. Le jeune prince gît dans ses draps maculés de sang et de vomissures. Dans la matinée, le roi fait son entrée dans le logement des enfants royaux. Il est très ému. Il regarde le petit Louis d'Anjou, son dernier héritier en droite ligne, dont le visage est encore rougi par la fièvre. Il dépose un tendre baiser sur sa joue et murmure
« Je n'ai donc plus que vous ».
En ce triste matin où le deuil frappe encore la maison de France, le petit duc d'Anjou devient le dauphin. Il régnera bientôt sous le nom de Louis XV. En cette mi-décembre 1697, la galerie des glaces brille de mille feux. Le plancher craque sous les sauts légers des danseurs et les rires joyeux emplissent l'espace. Ça fait longtemps que Louis XIV n'avait pas donné de grandes fêtes. En vieillissant, il a perdu le goût des distractions. La cour s'est assagie, mais là, il souhaite renouer avec les fastes d'antan. Ce n'est pas tous les jours qu'on marie son petit-fils. Le duc de Bourgogne, deuxième dans l'ordre de succession, a 15 ans. Et il vient de convoler pour le bien du royaume avec Marie-Adélaïde de Savoie, jolie comme un cœur, espiègle et sportive, mais encore un peu jeune, elle n'a que 12 ans. C'est pour cette raison que le roi a décrété que le couple ne consommerait pas leur union avant 2 ans. Louis XIV est déjà sous le charme de cette petite demoiselle qui agit comme un vent de fraîcheur sur la cour. Elle symbolise aussi la réconciliation de la maison de Savoie avec la France suite à la guerre de la Ligue d'Augsbourg qui opposait la presque totalité de l'Europe à la France. Plus tard, une fois le mariage consommé, Marie-Adélaïde fait son devoir de princesse. Elle met au monde trois fils en 1704, 1707 et 1710. Tous sont baptisés Louis de France. Le petit dernier, Anjou, n'a a priori aucune chance de régner. Il est en cinquième position dans l'ordre de succession. Ce début de siècle idyllique où la jeunesse laisse présager d'un avenir radieux ne dure pas. Monseigneur, le grand dauphin, le fils de Louis XIV, meurt de la variole en 1711. La perte de son premier héritier réduit le cœur du roi en miettes. Mais les drames ne vont pas s'arrêter là. En février 1712, Marie-Adélaïde de Savoie et son époux le duc de Bourgogne meurent tous les deux de la rougeole. Aujourd'hui, protégés par les vaccins, nous avons oublié l'agressivité de la rougeole. Jusqu'au milieu du 19e siècle, elle sévissait par vagues épidémiques tous les deux ou trois ans et faisait à chaque fois près de 3 millions de morts dans le monde. Alors qu'il enterre son petit-fils, Louis XIV constate qu'il n'a plus que deux héritiers présomptifs puisque le premier des fils du duc de Bourgogne est décédé à l'âge de 1 an. Hélas, le petit duc de Bretagne rejoint ses parents dans la mort un mois plus tard. Au matin du 9 mars 1712, le roi n'a plus qu'un héritier, le duc d'Anjou, un bambin de 2 ans, lui aussi menacé par la fièvre. 3 semaines s'écoulent sans nouveau drame. Les médecins décrètent le dauphin sauvé. Il a survécu à la rougeole, à moins qu'il n'ait eu qu'une méchante poussée dentaire. Ça, nous ne le saurons jamais. À la cour, les regards accusateurs des courtisans toisent le duc d'Orléans. Le neveu de Louis XIV aspirerait-il à succéder à son oncle? Est-il capable de tuer pour en arriver là? La cour n'a rien d'autre à faire qu'à médire. Elle s'ennuie. Certes, on ne porte pas le deuil des langes, le deuil des petits de moins de 7 ans, sinon on serait toujours habillé en noir. Mais l'ambiance n'est pas à la fête. Le nouveau petit dauphin voit désormais sa vie bouleversée par l'apprentissage urgent du métier de roi. La princesse Palatine, la belle-sœur de Louis XIV, est la première à se formaliser de l'éducation des petits princes. Dans les autres cours européennes, on leur laisse le temps de l'enfance. Ici, selon elle, on fait n'importe quoi. Elle écrit dans une de ses lettres datées de 1717.
On a fort mal élevé les enfants de princes, les garçons comme les filles. Dès l'âge de 9 ans, on les laisse faire toute leur volonté.
Depuis Louis XIII, l'éducation des petits princes s'est progressivement différenciée de celle des aristocrates. Évidemment, Louis XIV a accentué cette tendance avec son fils et ses petits-fils. Le futur roi doit prendre très tôt conscience qu'il est au-dessus du reste du monde. Et cette position impose de grandir vite, en développant un sens aigu de la responsabilité qui confine parfois au despotisme juvénile. Autrement dit, on n'a pas le droit d'être un enfant quand on grandit dans l'aile des princes de Versailles. C'est encore plus vrai pour le jeune dauphin. Il n'a plus de fratrie autour de lui pour partager ses jeux d'enfant et il devient le trésor de sa maman Ventadour, sa gouvernante. Cette belle femme gironde et élégante donne au futur Louis XV tout l'amour dont elle est capable et le petit le lui rend bien. Elle veille à son apprentissage de la lecture, de l'histoire et de la géographie et il adore ça. L'abbé Perrault, quant à lui, lui inculque la foi chrétienne. Souvent, Madame de Ventadour emmène son petit dauphin devant Louis XIV qui constate avec bonheur le bon état de santé du plus joli enfant du monde. Avec ses grands yeux bleus, il faut admettre que ce poupon est charmant quand il gambade sur ses jambes potelées. Ah bah vous imaginez sans doute un petit qui court en culotte courte? Eh bien pas du tout! Les petits garçons portent alors une sorte de robe qui ressemble à celle des femmes et Madame de Ventadour le tient par la lisière. La lisière, c'est un cordon de soie relié au dos de l'enfant qui permet de l'aider dans ses premiers pas et de le retenir s'il court trop loin. Oui, c'est une sorte de laisson, on peut voir les choses comme ça.
Europe 1,
au cœur de l'histoire, Virginie Giraud.
Mais Louis XIV sait que le temps presse, il faut le préparer à ses fonctions. Le temps du jeu est vite révolu. Le 19 février 1715, le roi Soleil reçoit l'ambassadeur de Perse dans la Galerie des Glaces. Le souverain porte pour l'occasion un habit or et noir brodé de diamants. Eh bien, à ses côtés, il a fait venir le petit dauphin dans une tenue coordonnée à la sienne. C'est un soleil double que l'ambassadeur oriental salue. Charmé par ce touchant tableau, celui-ci désigne le dauphin par le nom de « prince nécessaire ». C'est ainsi que l'on nomme les princes héritiers dans son pays. La cour trouve ce nom très approprié.
Plus tard, lors du jeudi saint qui précède Pâques, Louis XIV exige que le dauphin participe à une cérémonie. L'enfant, toujours âgé de 5 ans, doit porter lui-même des plats à des pauvres, comme un simple servant. Il le fait très bien, et toute la cour est attendrie. Malgré la chaleur, l'été 1715 prend l'allure d'un hiver, celui d'une vie. Le roi Soleil est très malade. Sa mort n'est plus qu'une question de jours. Le 22 août, il fait venir son successeur dans sa chambre. Il le trouve joli, habillé en officier de gendarmerie. L'enfant vient en effet de voir passer la parade des gendarmes et il est tout joyeux. Mais l'ambiance pesante de la chambre dissipe la bonne humeur de ce gamin sensible. L'instant que le petit Louis de France va vivre est son premier grand souvenir. Garde-t-il en mémoire l'odeur putride de la jambe gangrénée de son arrière-grand-père qui emplit toute la chambre du roi, ou s'est-il concentré sur les derniers conseils que lui donne son bisaïeul ? Ça, je ne saurais pas le dire. En revanche, on sait ce que le roi lui a dit.
« Mignon, vous allez être un grand roi, mais tout votre bonheur dépendra d'être soumis à Dieu et du soin que vous aurez de soulager vos peuples. Il faut pour cela que vous évitiez, autant que vous le pourrez, de faire la guerre. C'est la ruine des peuples. Ne suivez pas le mauvais exemple que je vous ai donné sur cela. » J'ai souvent entrepris la guerre trop légèrement et l'ai soutenue par vanité. Ne m'imitez pas, mais soyez un prince pacifique.
Louis XIV bénit ensuite le futur Louis XV en pleurant. Le dauphin quitte la chambre royale, en larmes lui aussi. Le roi Soleil décède le 1er septembre 1715. Le roi est mort, vive le roi! Mais le roi n'a que 5 ans et Louis XIV lui a donné son neveu Philippe d'Orléans comme régent. La première décision du souverain par intérim est de ramener la cour à Paris. Ce n'était pas le souhait de Louis XIV, mais il estime qu'un roi doit vivre auprès de son peuple et non dans une cage dorée loin de tout. Cette décision est excellente, les Parisiens débordent d'affection pour leur petit souverain et le régent le fait remarquer à l'enfant roi alors que leur voiture entre dans la capitale quelques heures seulement après la mort de Louis XIV.
« Voyez, sire, combien votre peuple de Paris vous aime, et comme il prend plaisir à vous voir. Il est bon que vous lui sachiez bon gré, ainsi saluez-le. »
Le petit Louis XV sourit et agite sa main à la fenêtre de son carrosse. C'est sa première leçon de roi. La seconde se déroule 2 semaines plus tard. Le régent a organisé un lit de justice au palais des Tuileries, une séance extraordinaire du Parlement. Louis XV est habillé en violet foncé, la couleur royale du grand deuil. Madame Ventadour ne lâche pas sa lisière, même s'il est assis sur le trône. L'enfant récite les mots que son gouverneur, M. de Villeroy, lui souffle. Le but de cette réunion est d'organiser la régence. Pour M. d'Orléans, c'est une véritable opération séduction auprès du Parlement de Paris. Mais tout ça échappe au petit Louis XV. Bon, il est en avance sur son âge, mais ses jeux politiques sont encore trop complexes. Il passe encore 2 ans entre les bras de sa maman Ventadour au palais des Tuileries. Son passage aux hommes à l'âge de 7 ans est un crève-cœur. Monsieur de Villeroy, son gouverneur, le surveille comme le lait sur le feu. Il est toujours grave et étouffe toute spontanéité chez cet enfant initialement joyeux et plein d'humour, mais timide aussi. Il s'est caché dans les rideaux du palais lors de la venue de l'ambassadeur de Sicile. Heureusement, l'abbé de Fleury fait office de second père. C'est pour ça, sans doute, qu'il deviendra plus tard son premier ministre. C'est lui qui lui ouvre l'esprit et le cultive si bien que Louis XV sera un roi mieux éduqué que Louis XIII et Louis XIV. Le jeune roi s'avère passionné par les sciences et le palais du Louvre en face des Tuileries devient un terrain de jeu et pour cause, Louis XIV y avait installé plusieurs académies scientifiques. Villeroy se retrouve vite dépossédé de son élève par Fleury et le régent. Quoi qu'on ait pu dire, Philippe d'Orléans ne fait rien pour nuire au jeune Louis XV. Le marquis d'Argenson, son futur ministre, témoigne même dans ses mémoires de son affection sincère pour le jeune souverain. Le régent l'invite régulièrement au conseil des ministres pour l'initier à son métier de roi. L'enfant se montre sage et appliqué. Il fait ce qu'on attend de lui, mais il préfère la chasse et la fauconnerie pour lesquelles il montre les plus belles aptitudes. Les années passent entre la conscience des devoirs que l'on a quand on est roi et l'envie de vivre pour soi que l'on réprime toujours, surtout quand la cour vous observe comme le jour du sacre.
Louis XV a 12 ans quand il est sacré à Reims le 25 octobre 1722. La cérémonie le place dans la filiation des rois de France depuis Clovis. 4 jours plus tard, il éprouve ses pouvoirs thaumaturges, sa faculté à guérir les foules héritées des rois capétiens, en touchant 2000 scrofuleux. « Dieu te guérisse, le roi te touche », prononcé 2000 fois. L'année suivante, la régence s'achève officiellement. Le régent rend son royaume à un roi majeur de 13 ans. Louis XV sait qu'il est encore bien jeune pour se passer des conseils avisés de ses proches, mais il accepte que Philippe d'Orléans soit son premier ministre. La première décision que prend Louis XV est de retourner à Versailles. Il faut dépoussiérer et réaménager à la hâte le château du Roi Soleil, abandonné depuis 7 ans. Ce retour dans les lieux de ses premiers souvenirs est une immense joie. Le roi adolescent court d'abord jusque dans la chapelle. Ses yeux parcourent l'intérieur de ce bâtiment sublime, rehaussé d'or, où se mêlent des influences gothiques, classiques et italiennes. C'est là qu'il assistera à tant de messes et même, bien plus tard, au mariage de son petit-fils, le futur Louis XVI, avec Marie-Antoinette. Ému, il s'agenouille et récite une prière. Mais à 13 ans, on ne tient pas en place. Le voilà qui court dans le parc, traverse les bosquets comme un diable qui sort de sa boîte. Mais ce retour en enfance n'est pas terminé. Vite, il faut à nouveau rentrer dans le château, monter un grand escalier, courir toujours plus vite jusqu'à la galerie des glaces, jusqu'à ce point précis, là, au milieu, où la perspective des jardins est parfaite, où l'éclat du soleil se vaporise en écume étincelante sur les miroirs, là où il a encore des souvenirs avec son bisaïeul adoré, Louis XIV, puisque sa chambre est juste là, derrière les grandes glaces. Épuisé, le petit roi se laisse choir sur le sol. Aucun meuble n'a encore été réinstallé dans la galerie, alors il faut faire fi des convenances. Philippe d'Orléans et la suite du roi se sentent autorisés à l'imiter. Drôle de spectacle que la fine fleur de l'aristocratie, jonchant le sol de la galerie des glaces comme des fleurs de soie froissées par une chaude journée d'été. Louis XV a sans doute décidé de quitter Paris car il n'est pas à l'aise parmi la foule de la capitale. C'est du moins l'hypothèse pleine de bon sens de l'historien François Bluch. Louis XIV a créé Versailles pour mettre l'aristocratie au pas. Louis XV en fera le décor de sa vie, une vie de faux-semblants, sans doute malheureuse pour lui, le 5e dans l'ordre de succession de Louis XIV, pour lui qui n'était pas taillé pour le pouvoir, qui aurait sans doute voulu vivre en simple aristocrate, d'amour, de chasse et de plaisirs faciles, pour oublier l'ombre omniprésente de la mort qui a fauché tous ses proches dans son enfance. Le souverain souffrira en effet toute sa vie d'accès de mélancolie. Par certaines de ses mauvaises décisions, Louis XV amorcera le déclin de la dynastie des Bourbons qui s'achèvera avec l'inéluctable Révolution française quelques décennies plus tard. C'est peut-être le prix qu'il a fait payer à la vie pour son enfance volée. Être reine de France vous dépossède de votre corps et vous oblige à accoucher en public. On parlera des accouchements royaux sous l'Ancien Régime avec l'historien Stanis Pérez et on va tordre le cou à quelques idées reçues. Alors on reste ensemble sur Europe 1.
Bonjour, c'est Cyril Hanouna.
16h-18h, on marche sur la tête.
Écoutez Europe 1, c'est être libre.
Je me dis dans quel monde on vit. Il faut vraiment taper du poing sur la table, il n'y a plus le choix.
On a un mec qui en début d'année va envoyer des mecs en Ukraine faire la guerre. Et aujourd'hui il dit aux Russes, faut se calmer.
Les gens deviennent fous, on a peur.
On se dit mais dans quel monde vit-on ?
Merci à vous Cyril de pouvoir égayer nos journées à la radio.
Vous donnez non seulement le sourire, mais vous donnez un truc qui est super rare à l'heure actuelle, c'est l'espoir.
Europe 1. La radio libre.
On marche sur la tête.
On marche sur la tête. Cyril Hanouna.
Alors, à demain, de 16h à 18h sur Europe 1 et en replay sur le site et l'appli Europe 1.
Profitez du Black Friday Nocibé pour révéler votre beauté avec des produits spécialement sélectionnés pour vous à prix doux. Jusqu'au 2 décembre, moins 30% sur tous les parfums et tous les coffrets dans votre magasin. Nocibé, la beauté partagée. Voir conditions en magasin.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, super votre appli Mon Leclerc, je ne manque plus aucune promo.
Ah, tant mieux.
Mais vous auriez pas une appli pour intégrer ma carte de fidélité ?
Bien sûr, l'appli Mon Leclerc.
Mais celle-là, je l'ai déjà.
Justement, on récapitule. Avec l'appli Mon Leclerc, consultez toutes nos promos, activez vos bons de réduction, retrouvez votre carte de fidélité et conservez vos tickets de caisse. Elle fait tout pour défendre votre pouvoir d'achat.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Disponible sur iOS et Android. Plus de détails sur www.e.leclerc, rubrique application mobile.
Les ventes flash de la Black Friday Week Amazon sont enfin là. Économisez jusqu'à 35% sur de nombreux produits. De la high-tech à la maison, en passant par les jouets, la beauté et bien plus encore. Profitez des ventes flash de la Black Friday Week Amazon. Jusqu'au 2 décembre. Des ventes flash qui vont vraiment vous enchanter. Europe 1.
15h, 16h, au cœur de l'histoire. Virginie Giraud.
Vous écoutez toujours au cœur de l'histoire sur Europe 1. Aujourd'hui, après l'histoire de l'enfance de Louis XV et celle du régent, j'ai le plaisir de recevoir l'historien Stanis Pérez pour faire le point sur l'accouchement des reines de France, un événement public et médical qui à chaque fois marque l'histoire. Bonjour Stanis Pérez.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Alors commençons par Marie Leszczynska, qui n'est pas la reine la plus connue, c'est l'épouse de Louis XV, mais c'est sans doute la reine qui a le mieux travaillé, si l'on peut dire, puisqu'elle a une dizaine d'enfants, 2 garçons et 8 filles. Pourquoi une telle fertilité pour Marie Leszczynska? Parce que 8 filles, notamment, c'est beaucoup.
Alors oui, mais c'est une grâce, on va dire, du ciel, parce que le gros problème au XVIe siècle et même au XVIIe siècle, c'était justement une fécondité un peu en berne et une tension autour de ce corps féminin, ce corps royal, ce corps réginal, comme on dit, qui se devait de donner un héritier. Donc en fait, quand on regarde un peu la généalogie et la fécondité de ces différentes reines, on s'aperçoit que, bien sûr, il y a la nécessité de donner naissance à un garçon qui va être viable, bien formé, si possible en bonne santé. Mais en réalité, l'espérance de vie et la surmortalité, notamment entre 1 an et 5 ans, fait qu'en réalité, il vaut mieux avoir beaucoup d'enfants en se disant qu'il y en a peut-être un, effectivement, qui arrivera. En tout cas, un garçon, si possible, qui arrivera à succéder à son père. Donc, 10 enfants, ça paraît beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de moyen de contraception au sens de notre définition de ce qu'est un moyen de contraception, et que par ailleurs, la morale le réprouve. Mais dans un temps où il est tellement difficile de donner naissance à un garçon qui deviendra adulte, que on préférait multiplier ses naissances.
Alors, vous l'avez dit, il n'y a pas de contraception à l'époque, mais est-ce qu'il y a des traitements pour favoriser la fertilité des reines ?
Oh oui, mais je dirais que ces traitements, ils sont surtout spirituels en réalité. C'est-à-dire, on s'en remet à Dieu, on prie la Vierge, on fait des offrandes, on peut faire des processions, des pèlerinages surtout. On va s'en remettre à des saints, à des saintes en particulier. Alors, Sainte Anne, Saint Léonard, qui ont une fonction d'ailleurs assez mixte, c'est-à-dire que ce sont des personnes sacrées, disons, qui à la fois peuvent favoriser la fécondité et en même temps permettre que l'accouchement se passe bien, parce que c'est pas tout de tomber enceinte, c'est pas tout d'avoir une grossesse à terme, il faut aussi survivre à l'accouchement et avoir un enfant qui soit bien formé, donc c'est une aventure en plusieurs étapes. Alors les médecins, bien sûr, peuvent toujours recommander des régimes qui s'inspirent de textes datant de l'Antiquité, des régimes qui sont rafraîchissants, humidifiants. Il y a toujours cette symbolique, il faut garder ça présent à l'esprit, d'un corps féminin qui est du côté du domaine aquatique, de l'humidité, de la fraîcheur, contre le corps masculin qui, lui, est du côté de la sécheresse, de la chaleur. Donc en fait, une femme qui a du mal à tomber enceinte, peut-être c'est parce que elle est un peu desséchée, elle est un peu trop chaude. Donc en fait, il faut la rafraîchir de façon à ce qu'ensuite, la nature fasse son travail et que elle puisse porter un enfant.
Alors venons justement maintenant à la grossesse. Aujourd'hui, toutes les femmes qui ont attendu un enfant le savent, il y a plein d'interdits, pas de cigarettes, pas d'alcool, pas de sushis, des viandes bien cuites, des légumes qui viennent de préférence d'un magasin de congelé. Est-ce qu'il y a des restrictions particulières ou des règles à respecter pour les femmes de cette époque-là, pour les reines de France ?
Alors, tout à fait. Et on a des textes qui sont très précis à partir du XVIIe siècle. On a des traités rédigés par des chirurgiens qui se mêlent d'obstétrique et qui disent attention notamment au mouvement. Ça, c'est quand même des choses de bon sens, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas une fausse couche. Pour qu'il n'y ait pas de problème, voire de malformation, il faut éviter la chasse. Parce que ces princesses, ces reines, ces dauphines, évidemment, elles aiment la chasse. Il faut éviter les bals. Il faut éviter de participer, par exemple, à des rituels de cours qui seraient un peu trop prolongés dans le temps. Tout ce qui peut fatiguer, tout ce qui peut entraîner un choc, un faux mouvement, voilà, il faut éviter. Et en l'occurrence, on s'aperçoit que dans les sources, hein, c'est assez net, lorsqu'une princesse est enceinte, elle va moins voyager, elle va pas participer aux grandes cérémonies, aux bals, aux fêtes. Voilà, on essaie quand même de la protéger. Le discours des médecins, notamment, il va dans le sens de dire, bon, une femme, elle est enceinte, elle va donner la vie, très bien, donc, elle a accompli sa mission. Ça veut dire qu'au niveau de ses humeurs, de ses organes, de son anatomie, le niveau d'humidité est suffisant. Donc, il faut pas en rajouter. Donc, on va faire attention notamment à tout un tas de légumes qui pourraient avoir un côté parfois un peu laxatif, pour dire les choses, donner la colique. On songe notamment au melon, qui est absolument interdit à toutes les femmes, reines ou pas d'ailleurs, au moment de la grossesse, parce qu'on considère que ça pourrait avoir un impact sur la gestation, voire d'ailleurs déclencher des fausses couches ou des avortements.
Europe 1,
au cœur de l'histoire. Virginie Giraud.
Alors, il y a quelque chose qui change avec la dynastie des Bourbons qui commence avec Henri IV, c'est que l'accouchement de la reine de France devient public.
Bon, on a tendance à dire qu'il est public, oui, mais n'importe qui ne peut pas y assister. Et en fait, nous avons des documents très précis qui montrent que la chambre, ou une partie d'ailleurs, hein, c'est pas forcément la chambre de la reine, du palais du château de Versailles par exemple, peut être réquisitionnée. À ce moment-là, on va installer ce qu'on appelle une tente, ou une tenture, ou un pavillon, et qui est en fait un peu en poupée russe, si je puis dire. Il y a le lit où se retrouve la reine, à ses côtés une sage-femme, et puis au XVIIe et XVIIIe siècle, plutôt un chirurgien qui est spécialisé. Il y a le roi, hein, le roi doit assister à l'accouchement, c'est très important. Et en fait, il n'y a que deux ou trois personnes. Dans le deuxième pavillon, par contre, on a par exemple un prêtre, on a des membres proches de la famille royale. Bon, s'il y a la reine-mère qui est encore vivante, elle peut aussi être présente. Et enfin, dans le troisième espace, disons, dans le troisième territoire autour de la parturiente, on retrouve ceux qui ont les grandes entrées, donc plutôt les aristocrates, les personnes les plus importantes. Mais donc le grand public, bien sûr, ne peut pas y assister.
Et elle, d'ailleurs, que fait le roi à ce moment-là? Parce que j'ai du mal à imaginer Henri IV en train de tenir la main de sa femme et de l'aider à pousser. Que fait le roi?
Ah, alors attention pour Henri IV, justement, nous avons le...
Ah.
Vous êtes sévère avec ce pauvre Henri IV.
Qui, nous en avons... fait, était très en avance sur son temps, c'est ça?
Ben oui, parce que... Alors, bon, il n'assiste pas à l'accouchement, mais il arrive dès la délivrance pour voir le sexe de l'enfant. C'est là, en fait, ce qui est crucial. Et nous avons le témoignage, justement, de l'accoucheuse de Marie de Médicis. Il s'appelle Louise Boursier, ou Bourgeois, hein, les deux noms coexistent, et qui raconte, et c'est assez exceptionnel, que Henri IV, ils font en larmes. Ils font en larmes parce qu'il est tellement content d'avoir un dauphin qu'il se met à pleurer, et bon, c'est quand même quelqu'un qui avait un tempérament bien trempé. Et ça a impressionné beaucoup les courtisans, mais il était tellement content d'avoir un petit garçon qu'il s'est mis à pleurer et il a voulu avoir la primeur de, je dirais, de la connaissance à la fois du sexe de l'enfant et de donner l'information à son épouse. Hein. Ça, c'était vraiment très, 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 très important.
Alors, venons-en aux pratiques de l'accouchement. Dans l'Antiquité, on utilisait une chaise d'accouchement. À quoi ça ressemble? Parce que je sais qu'elles sont encore utilisées sous l'Ancien Régime, mais quand passe-t-on de l'accouchement assis à l'accouchement allongé?
Alors, en fait, le dernier accouchement assis, d'après les sources, à la cour de France, c'est à la fin du XVIIe siècle. Hein, et c'est Marie-Thérèse. Et à partir du justement début 18e siècle, on a une vision qui est un peu différente, c'est-à-dire au départ, effectivement, on préfère la position entre guillemets assise, hein, avec une chaise d'accouchement et l'aide de sage-femme. Et au 18e siècle, eh bien, les techniques changent, on préfère un accouchement allongé, sous la supervision, si on peut employer ce terme, d'un chirurgien, donc en l'occurrence d'un homme. Il y a une forme de médicalisation de l'accouchement, qui est assez intéressante. On a aussi inventé entre-temps le forceps, hein, alors à la fin du XVIIIe siècle, qui aide, parce que, bien entendu, hein, il ne s'agit pas d'avoir un chirurgien qui se contente de dire « bon, ben, on va faire des saignées et on va les pratiquer pour soulager la parturiente ».
Alors, je sais qu'on ne pratique pas non plus la césarienne, puisqu'on la pratique à la fin du 19e siècle avec succès, mais qu'en est-il de l'épisiotomie et comment gère-t-on les déchirures du périnée? Parce que ça peut se produire tout seul.
Oui, alors, en l'occurrence, les chirurgiens aussi, dans leur traité d'obstétrique, hein, toujours eux, ils recommandent d'utiliser des onguents, alors des huiles, des mélanges, toujours de matière relativement grasse et apaisante. De toute façon, on recommande quand même à la jeune femme, enfin jeune ou moins jeune d'ailleurs, qui vient d'accoucher, de ne pas avoir de relations sexuelles pendant les semaines qui suivent. Alors là, en fonction des témoignages, qui sont en grande partie bien sûr des indiscrétions, mais qui semblent tout de même fiables, on s'aperçoit que pour les différentes reines et princesses de France, hein, au XVIIIe siècle en particulier, on est entre 3 et 6 semaines.
Est-ce que les reines de France ont pratiqué l'allaitement ?
Alors, normalement, l'allaitement, c'est réservé à la nourrice. Et les nourrices, puisqu'il y en a plusieurs habituellement, elles sont choisies avant la naissance, bien sûr, de l'enfant. Elles sont sélectionnées, on ne prend pas des rousses, on ne prend pas des femmes de mauvaise vie. On ne prend pas des rousses parce qu'on dit qu'elles sont de mauvaise humeur. Et elles pourraient transmettre leur mauvaise humeur, à toujours ce mythe, des femmes
dans
rousses.
Dans le lait.
Voilà, qui ont plein de défauts, en théorie. Alors, Marie-Antoinette, elle va un peu scandaliser, parce que elle se dit, je trouve que c'est pas mal d'allaiter. Elle a lu des traités dans ce sens-là, qui trouvait que c'était mieux pour l'enfant, et que respecter un peu l'ordre des choses, l'ordre naturel. Mais, en termes de protocole, c'était compliqué, parce que la princesse de Lamballe, elle avait prévu, voilà, et d'autres, hein, Madame Étiquette, de choisir des nourrices et qu'à ce moment-là, se retrouvaient un petit peu au chômage. Et par ailleurs, on considérait que c'était relativement impudique d'allaiter son enfant lorsqu'on est une reine de France.
Merci Stanis Pérez, on a pu avec vous visiter un petit peu ce qu'est l'obstétrique de cette époque-là, ce qui fait froid dans le dos quand on est une femme, on est très content de vivre au 21e siècle. Alors pour se plonger un peu plus dans le sujet, il y a deux livres à lire, les vôtres, Le corps de la reine, mais aussi Le corps des femmes, 1000 ans de fantasmes et de violences du 11e au 21e siècle, paru aux éditions Perrin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au cœur de l'histoire, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès samedi prochain pour une émission consacrée à la folie, avec un portrait de Louis II de Bavière, le cousin un peu fantasque de l'impératrice Sissi. Et on complétera avec une interview passionnante sur l'histoire de la psychiatrie. Je vous rappelle d'ailleurs que les épisodes d'Au cœur de l'histoire sont d'abord diffusés en podcast avant d'arriver à l'antenne. Donc si vous vous connectez maintenant sur votre appli de podcast préférée, eh bien vous pourrez écouter mon récit sur le congrès de Vienne, hein, qui n'est pas encore diffusé à l'antenne. Le congrès de Vienne, c'est l'acte de naissance de l'Europe moderne après la chute de Napoléon. Et vous verrez que ce congrès va enfanter les guerres mondiales, du moins va en poser les premiers jalons. Et puis, ça ne nous a pas échappé, la semaine va être spéciale à partir de demain, lundi 2 décembre jusqu'au dimanche 8 décembre. Europe 1 reviendra sur l'ouverture de Notre-Dame. Souvenez-vous, le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris brûle. Le monde entier assiste impuissant au drame. Et 5 ans après, promesse tenue, Notre-Dame s'apprête à rouvrir ses portes aux fidèles, plus belle que jamais. Pour célébrer l'événement, Europe 1 consacre une semaine spéciale à Notre-Dame avec des reportages exceptionnels, des invités et un podcast inédit raconté par Pascal Pro et illustré d'archives Europe 1. D'ailleurs, je vous glisse quelques petites indiscrétions. Vous pourrez y retrouver, évidemment, Stéphane Bern.
Les images que j'ai vues me bouleversent, me peinent, me révoltent. Je ne pensais pas voir un jour Notre-Dame de Paris en flammes.
Quant à moi, j'irai voir M. Jost, qui a supervisé les travaux après le général Georges Lain, et il va nous raconter comment il a vécu la reconstruction de Notre-Dame. Donc ça va être exceptionnel. On va se retrouver toute la semaine pour cet événement qui va marquer l'histoire. Et tout de suite, je cède le studio à Sophie Davant qui vient vous parler d'amour. Bon après-midi et bonne journée sur Europe 1.
BMW 100% électrique, 100% plaisir de conduire. Venez essayer la BMW électrique qui vous ressemble. Jusqu'au 31 décembre 2024, la BMW iX1 M Sport est à 490 euros par mois.
Offre pour BMW iX1 20 M-Sport. LLD 39 mois 30 000 km. Premier loyer 490 euros après déduction bonus écologique de 4 000 euros. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
À tous ceux qui réalisent que Noël, c'est dans une vingtaine de jours. Et à ceux qui aimeraient bien que Nico dise s'il vient ou pas. Hein, Nico ? Tu peux répondre sur le groupe ? Ou tu m'envoies un texto ? C'est dingue. On n'a toujours pas de nouvelles de Nico ? Oh !
Avec ou sans Nico, dès mardi chez Intermarché, pour l'achat d'un produit de la marque Laberry, saumon ou truite fumée, vous avez 68% de remise immédiate sur le second. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 15 décembre, sur le moins cher des deux, transformé en France. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
Gala, plus d'images, plus d'histoires. Cette semaine, avec Gala Spécial Fête, offrez-vous Douce Insomnie, la fragrance sensuelle de l'Atelier Parfum, dans un écrin inédit en édition limitée. Gala, la promesse de s'offrir de grands destins. Dans la limite des stocks disponibles, 2,50€ en plus du prix du magazine, liste des points de vente sur gala.fr.